Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. On ne voudrait pas abuser des métaphores guerrières, mais sur le front social en France, ce 2 avril ressemble beaucoup à une veillée d'armes. C'est en effet demain que débute la grève des syndicats de cheminots contre le projet gouvernemental de réforme de la SNCF. À partir de demain, pour prendre le train, il faudra bien avoir le calendrier en tête. 2 jours de grève, 3 jours de travail, 2 jours de grève, 3 jours de travail, etc. Jusqu'à la fin juin, c'est-à-dire 3 mois qui s'annoncent tendus entre les cheminots et le gouvernement qui affiche chacun leur détermination à tenir leurs objectifs. Sans oublier le conflit salarial à Air France, il va falloir pourtant trouver une solution. Qui va plier ? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous ce soir en studio. Jean-François Amadieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sociologue spécialiste des relations sociales au travail et directeur de l'Observatoire des discriminations. Et vous êtes l'auteur du livre DRH, le livre noir, c'est aux éditions du Seuil. Et par téléphone, Christian Chevandier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université du Havre, auteur de Cheminots en grève, c'est aux éditions Maisonneuve et La Rose. Le week-end prolongé de Pâques se termine ce soir et finalement, les retours devraient se dérouler sans trop de difficultés. Mais après, tous les ponts du mois de mai seront touchés par le mouvement s'il se prolonge. On va d'abord parler de cette nouvelle forme de grève. 2 jours sur 5, alors qu'auparavant, on avait plus l'habitude de mouvements reconductibles. Pourquoi ce changement, Jean-François Amadieu ?
Bah, c'est une formule qui est assez astucieuse. C'est, en effet, c'est plutôt original, mais ça permet de maximiser la gêne, soyons clairs, hein, les perturbations. C'est quand même le but, bien entendu, de grève des transports. C'est pour ça qu'elles sont efficaces. Et de cette manière, ça peut coûter moins aux grévistes. Alors, vous avez noté que Guillaume Pépi avait naturellement tout de suite contre-attaqué en indiquant que la grève coûterait plus cher que ce que les organisations syndicales avaient anticipé. Là, donc, là, ça est une bataille juridique. Mais en revanche, normalement, ça coûte moins cher et ça maximise la gêne. Il faut quand même rappeler que les trains ne peuvent pas rouler tout à fait normalement le lendemain d'une grève. Donc, dès lors que vous faites 2 jours de grève, en fait, ça correspond à 3 jours de perturbation.
Oui, ça met du temps à redémarrer à chaque fois. Christian Chevandier, est-ce que cette nouvelle forme de grève, qu'on appellera perlée par commodité, est-ce que c'est lié notamment au non-paiement des jours de grève depuis plusieurs années ? Est-ce que ça a été pensé comme ça ?
En fait, les jours de grève n'ont jamais été payés hein, dans aucun cas.
Bon, disons que c'était la fin de la négociation. Voilà, on va dire ça comme ça, habituellement.
Oui, voilà. En règle générale, dans la négociation était compris le paiement d'une partie des jours de grève. Et c'est justement ce qui permettait, dans le cadre de la grève, de préparer la reprise. Mais en fait. Chaque fois que des salariés partent en grève, ils savent bien qu'ils vont être, qu'ils vont perdre une partie de leur salaire.
Enfin, Jean-François, perdre leur salaire.
Oui, sur ce point, il faut préciser que la pratique, si vous voulez, de la négociation, finalement assez facile du paiement des jours de grève, dans la fonction publique et dans les entreprises publiques à statut, quelle qu'elle soit, c'était une pratique fréquente jusqu'à la fin des années 90. Et à partir de ce moment-là, dans les entreprises publiques à statut, on a commencé à opérer un virage et à cesser et à arrêter ces pratiques. Et par la suite, dans les fonctions publiques, c'est ce qui s'est passé, notamment à partir de 2003, à partir du milieu des années 2000. Et ce n'est pas encore totalement terminé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un basculement. Dans le passé, c'était beaucoup plus habituel.
Alors, le fait de saupoudrer la grève comme ça, ou de la perler, est-ce que c'est un signe de force ou finalement de faiblesse, Christian Chevandier ?
Il est difficile de le savoir. En fait, ce qui est intéressant, c'est la recherche d'une originalité qui se veut efficace. J'ai tendance à penser qu'un signe de force serait ce qu'ont pu faire les cheminots au début de la grève de 1968, c'est-à-dire que des cheminots grévistes fassent rouler les trains gratuitement. En mai 68, le 17 mai, je crois, c'était pour faire revenir chez eux les personnes qui étaient parties le matin même pour travailler, notamment les banlieusards.
Alors, Jean-François Amadieu, on a bien senti que le gouvernement et la direction de la SNCF ne s'attendaient pas à cette nouvelle formule. Est-ce que ça les met en difficulté ? Est-ce qu'ils ont dû s'adapter rapidement ?
Disons que ça change rien à la programmation des plans de transport, si vous voulez. Ça ne change rien. Il y a la déclaration préalable 48 heures avant. Vous organisez que ça va simplement, comme on l'expliquait tout à l'heure, conduire à 2 à 3 jours, plutôt 3 jours de perturbations qui reviennent régulièrement. Donc c'est assez gênant. Après, évidemment, pour une entreprise comme la SNCF, qui, vous l'avez noté, s'efforce d'assurer son trafic international et définit ses priorités, ça risque d'être assez intenable et même complètement intenable dans la durée, parce que évidemment 36 jours, tout ça va faire 3 mois, donc c'est absolument énorme. Donc c'est intenable, on le voit bien, c'est à la fois économiquement et après tout va se jouer sur la réaction de l'opinion, parce que comme vous le savez, les grèves des cheminots ne sont pas d'ordinaire très populaires déjà depuis quelque temps. C'est classique par rapport aux autres formes, aux autres catégories en grève. Et d'autre part, lorsque les gens sont usagers des transports, notamment en Île-de-France, ils sont peu favorables aussi à ces mobilisations.
Alors Christian Chevandier, vous en parliez il y a quelques instants, cette grève, c'est une bataille de communication, et dans ce cadre, ce calendrier d'un genre nouveau, eh bien, permet tout de même de s'organiser un minimum. Hein, quand on a vu arriver ce calendrier, on a pu voir quand est-ce qu'on allait prendre nos trains ou pas. Et c'est plutôt bien joué de la part des syndicats de cheminots dans cette bataille de communication.
Alors je crois que nous avons tous bien pris en note les jours de grève pour nous organiser en fonction de cela. Alors bien joué dans cette bataille de communication, on le saura à l'issue du mouvement. Voire peut-être quelques mois ou quelques années après, hein, puisque ce qui est intéressant quand on regarde sur un temps long, c'est de voir non pas les revendications qui sont satisfaites à la fin du mouvement, mais quels ont été les effets du mouvement en question 2 ou 3 ans après, soit sur certaines revendications, soit sur des évolutions, la prise en compte d'évolutions technologiques d'une manière ou d'une autre.
Alors, je reste sur cette bataille de communication, Jean-François Amadieu. Le gouvernement table, et vous l'avez dit, sur l'impopularité du mouvement et des cheminots. Il y a eu pas mal d'accusations lancées contre les cheminots ces derniers jours. Et il y a quand même quelques sondages là-dessus, et ils sont finalement assez partagés entre soutien et opposition aux cheminots.
Oui, tout à fait. Tout le monde a noté qu'il y avait une petite progression du soutien
ces derniers
aux grévistes.
Jours, oui.
Oui, c'est passé de 42 à 46%. Néanmoins, il y a encore une majorité de Français qui trouvent le mouvement non justifié. Alors, faut ajouter que ça varie beaucoup d'une catégorie socio-professionnelle à l'autre, bien entendu. Mais c'est assez, je dirais, un résultat classique. Il y a eu des grèves de la SNCF, je me souviens, celle de 2014. Elle était particulièrement impopulaire, peu comprise par les Français. Mais en général, c'est vrai que les grèves de la SNCF et des cheminots, une fois de plus, sont vraiment parmi les grèves impopulaires. Mais il faut, là où il y a un danger, bien sûr, pour n'importe quel gouvernement, et personne ne l'ignore, c'est que même si vous tenez compte de cette impopularité propre à la SNCF, le problème, c'est que les Français, par ailleurs, sont très attachés au droit de grève, même s'ils dérangent, et surtout soutiennent toujours massivement les grévistes et les manifestants. Donc là, nous sommes en présence de quasiment de ce qu'il y a de plus bas dans le soutien à des grévistes et des manifestants, la SNCF. Ouais. C'est quasiment ce qu'il y a de pire, enfin de moins bon. Mais ailleurs, pour n'importe quelle catégorie, les infirmières, les policiers, n'importe qui, c'est entre 80-90% de popularité et de soutien. Donc si vous voulez, le risque, c'est toujours que les Français, finalement, c'est un peu ce qui en ce moment, se mettent à soutenir finalement ceux qui protestent et se disent, c'est classique comme raisonnement, c'est que les gens de la SNCF, au fond, c'est de la grève par procuration, comme on dit, et que au fond, on va rallier un mouvement et qui peut-être sera plus général.
Christian Chevandier, le soutien aux cheminots, alors même s'il se discute, il est quand même assez traditionnel, ce concept de grève par procuration, historiquement, c'est quelque chose qui se vérifie quand même. Hein.
Alors, la grève par procuration, c'est une expression qui date de 1995. On nous expliquait ensuite que les travailleurs du privé, notamment, n'avaient pas fait grève parce que ça leur est très difficile, que il y a une de fait hein, des pressions beaucoup plus fortes au sein des entreprises privées qu'il n'y en a dans le secteur public, et que du coup ils se reportaient un petit peu et ils faisaient confiance aux cheminots et à l'ensemble du secteur public pour faire grève. Mais en fait, quand on regarde les articles dans les journaux en 1995, bon, on se rend compte que les journalistes insistaient sur l'impopularité du mouvement. Ils insistaient aussi sur tout ce que l'on entend, hein, les termes privilégiés, avantages, etc. Et quand on met cela en perspective sur un temps beaucoup plus long, moi j'ai retrouvé ça en 1953, bon 1947 c'était un petit peu différent, mais même dans au tout début du XXe siècle, hein, en 1910, en 1920, c'était il y a un siècle. Hein, et déjà les mêmes griefs qui étaient un peu faits. Avec notamment, on a presque l'impression que c'est un gag, l'histoire des voyages gratuits. Mmh. Ouais. Alors que c'est vraiment c'est une politique classique, enfin, c'est une politique d'attachement du personnel. Hein. On donne en quelque sorte un avantage en nature, qui a quand même l'intérêt pour les compagnies ferroviaires, puis ensuite pour la SNCF, de ne rien lui coûter, hein, parce que un cheminot ou une place vide, il n'y a pas grande différence.
Alors, il y a aussi une question dans ce soutien qui se manifeste dans une partie hein, des catégories socio-professionnelles, c'est les caisses de soutien. Il y a une caisse de soutien qui a été lancée par des célébrités récemment, notamment dans le milieu du cinéma, je pense à Robert Guédiguian. Est-ce que ça, c'est quelque chose de classique pour vous, Jean-François Amadieu, ça...
Non, alors la pratique française, sauf si on remontait peut-être à très très loin, mais il n'y a pas en France ce qu'on trouve dans d'autres pays industrialisés, qui est par exemple la capacité qu'auraient les syndicats à avoir, via leur caisse de grève, à payer des grévistes, ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Donc c'est pas une pratique française, et d'autre part, plus généralement, les quelques soutiens, on en trouve dans les conflits, hein, on sollicite un peu quelques soutiens financiers, mais c'est quand même assez limité dans le contexte français. C'est pas une pratique habituelle. Mais peut-être que l'historien pourrait compléter.
Alors, Christian Chevandier, est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus ?
Alors, il y a longtemps eu d'autres types de solidarité. Hein. Lorsque les grèves étaient longues, il pouvait y avoir, par exemple, des colonies de vacances solidaires. Hein, lorsque ça avait lieu l'été pour accueillir les enfants des grévistes. Et puis aussi, ça c'est existé en 68, je crois que c'est 68, c'est la dernière fois hein, on a pu assister à cela, véritablement, le fait que des paysans fournissent une partie de leurs produits aux grévistes. Bon, vu ce qu'est devenu le monde agricole, hein, les changements structurels, oui. Aujourd'hui ce n'est plus envisageable. Mais c'est une autre forme de solidarité dans la société que celle à laquelle vous faisiez allusion.
Alors dans cette bataille de communication, on est dans la période où on montre ses muscles, hein, on est dans le concours de muscles pour l'instant. Il y a la question de l'unité syndicale. Les syndicats de cheminots sont apparemment très unis, mais il y aura des élections professionnelles à l'automne. Est-ce que cette unité syndicale peut durer, Jean-François Amadieu ?
Alors, l'approche des élections professionnelles amène toutes les organisations syndicales, immanquablement, c'est la règle, à être plus dures et plus contestataire et surtout donc à être plus combative. Ça, c'est la règle d'or, ce qui fait qu'en général, on sait très bien qu'on a du mal à réformer, à faire des négociations dans les périodes préalables aux élections professionnelles. Donc, si vous voulez que des organisations réformistes lâchent le mouvement plus facilement dans cette période, c'est plutôt l'inverse. Ils auront plus de mal à lâcher. Mais il est vrai qu'à la SNCF, comme d'ailleurs à la RATP, la clé, notamment si on songe à ce qui se passe en région parisienne, pour les deux, la clé, c'est ce que va faire l'UNSA, en particulier, et bien sûr la CFDT, surtout l'UNSA. L'UNSA est la clé aussi bien de ce qui peut se passer, car c'est l'UNSA qui en fait détient les clés ou les, si vous voulez, pour éviter un blocage complet, notamment en Île-de-France, et de grosses perturbations. Parce qu'on sait que l'UNSA a déjà servi à ça à plusieurs reprises, notamment en 2010. Enfin, servi, si vous voulez, à un moment donné, abandonner un mouvement, et c'est une organisation bien implantée chez les cheminots.
Christian Chevandier, traditionnellement, comment est-ce que ce rond se fissure, si elle se fissure, l'unité syndicale des cheminots?
Alors, bon, tout en étant tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon collègue, hein, sur le rôle déterminant de l'UNSA, de l'UNSA que j'ai eu l'occasion de constater dans des assemblées générales lors des grèves de 2007 ou 2014, la question de l'unité la question de l'unité syndicale est essentielle, et généralement on arrive à percevoir les prémices d'une division quand on suit les assemblées générales. Et moi, les assemblées générales que j'ai suivies depuis quelque temps, des assemblées générales de cheminots, me donnent l'impression qu'on n'est pas dans une dynamique de division. Mais cela dit, l'historien ne délivre jamais de prévisions. Donc
je vais poser la question différemment. Qui plie historiquement dans les conflits mettant en jeu les cheminots? La CGT, on sait, est le syndicat numéro un, même si elle perd du terrain au sein de la SNCF depuis quelques années. Ce sont donc les syndicats réformistes. Alors on disait ils ont tendance en période préélectorale à être plus durs. Est-ce qui finalement finit par lâcher du lest, Christian Chevandier?
Alors, ce que l'on appelle les syndicats réformistes, mais il faudra voir aussi qu'est-ce que c'est que ces syndicats réformistes.
Et ça dépend des branches en plus, hein, voilà, oui.
Le statut de la CGT, le statut des cheminots a été notamment négocié, réfléchi il y a un siècle par des syndicalistes, de la CGT, et la fédération des cheminots de la CGT était perçue comme étant la plus révolutionnaire.
Oui, c'est important de souligner que
les
conflits des cheminots effectivement peuvent s'arrêter parce que des organisations comme l'UNSA en particulier, ou bien sûr la CFDT, vont abandonner un mouvement, mais également, comme c'est en effet souligné à l'instant, parce que la CGT elle-même, on l'a déjà observé à plusieurs reprises dans les entreprises de transport, va passer un deal ou finalement être d'accord pour accompagner la sortie d'un mouvement. On l'a vu, par exemple, si on songe aux régimes spéciaux en 2007 ou même les grèves de 2016, etc. Et donc, à plusieurs reprises, la CGT finalement va, je dirais, mobiliser ou cesser de mobiliser mollement, gérer la reprise du travail, etc. Donc, la CGT jouera aussi ce rôle et joue ce rôle de reprise à un moment donné.
Alors, il y a une question qui est l'usage des modes de transport, Christian Chevandier. Historiquement, la SNCF est en position de quasi-monopole, mais maintenant, depuis quelques années, il y a des transports alternatifs, le covoiturage, le bus, depuis quelques années. Est-ce que ça peut affaiblir l'impact de cette grève, affaiblir le mouvement?
Alors, c'est possible que cela va jouer. Cela dit, c'est pas non plus quelque chose de nouveau, hein. Et puis, ça se situe dans la concurrence traditionnelle entre le rail et la route.
Alors, oui. Jean-François.
Oui, peut-être juste sur ce point, le rapport de force, il se crée pas tellement finalement sur la desserte de Reims à Paris par des bus ou du covoiturage. C'est pas tellement ça, c'est pas le blocage là qui est le point central. N'oublions pas que la clé, c'est le blocage de la région parisienne, c'est la région Île-de-France. Et là, vous ne faites pas rouler, et surtout les lignes A et B des RER. Plus SNCF. Et donc évidemment, on sait que le point de blocage, il est là. Le rapport de force a toujours été créé de cette manière. Donc si vous avez une situation de blocage, pour des raisons purement économiques, hein, c'est un poumon évidemment essentiel, ça se bloque très facilement, il n'y a pas de moyen alternatif. Donc la clé, c'est vraiment la convergence RATP-SNCF et la région Île-de-France.
Merci beaucoup Jean-François Amadieu. Merci à vous également Christian Chevandier. On est déjà au terme de cette émission, vous avez prévenu, ça va très vite. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Laura Vicenzi à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles avec notamment l'application RFI Pure Radio, rubrique magazine. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Demain, c'est mardi politique. Le prochain débat, c'est donc après-demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.